Je pense qu'à l'intérieur d'une spécialité comme la musique, le film est quelque chose d'extraordinaire.
Alors, vous avez eu la chance, le privilège, Bruno Mont-Saint-Jean, de côtoyer Glenn Gould pendant de nombreuses années, de collaborer étroitement avec lui pour la réalisation de deux films.
Je pense qu'en particulier, c'est la rencontre avec Glenn Gould qui a donné un sens à mon existence depuis 10 ans. Richter était beau. Il avait une beauté d'un type expressif. J'ai commencé le violon relativement tard et c'est lié à la prise de connaissance que j'ai eue de Menuhin quand j'avais 4 ans.
France Culture, la série musicale Zoé Sfez.
Bonjour et bienvenue dans une émission libre, comme toutes les semaines, de tous les récits, de toutes les écoutes, de toutes les images. Une heure de radio sur la musique. En musique, c'est la série musicale, bien sûr, bienvenue. Est-ce qu'être musicien, c'est forcément jouer, diriger de la musique? Est-ce qu'on peut être un musicien, une musicienne, sans chanter ni diriger? Parce que la musique ne s'adresse théoriquement qu'aux oreilles, qu'elle est là pour susciter en nous des milliers d'images qui viendraient précisément de nous. Elle reste l'un des arts les plus difficiles à filmer. Le film, l'image en mouvement, le dernier né des grands arts, s'accommode-t-il bien de ce mariage avec la musique? Est-ce que relever le défi de faire de la musique par l'image, est-ce que ce n'est pas finalement un peu composé? C'est la question que pose l'œuvre, car on ose le mot, d'un homme comme Bruno Mont-Saint-Jean. Vous ne connaissez peut-être pas son nom, mais si vous vous êtes intéressé aux plus grands musiciens, aux plus grandes musiciennes de notre siècle, alors forcément vous avez vu à la télévision, aujourd'hui on peut le dire, sur YouTube, les innombrables extraits de la quelques centaines de films qu'il a consacrés à la pratique, l'enseignement, l'enregistrement de la musique classique. Comme un compositeur, il a écrit une œuvre cinématographique entièrement dédiée à transmettre son amour, sa compréhension profonde de la musique. Car formé au violon, Bruno Mont-Saint-Jean, qui fête en 2024 ses 80 ans, n'a cessé de filmer cette musique. Lui qui, violoniste de formation, a compris assez tôt qu'il ne serait pas un musicien aussi grand que ses deux idoles de jeunesse, Yenoui Menuhin et David Oistrakh, a décidé qu'il passerait sa vie à tenter de la partager. Depuis l'âge de 22 ans, il a filmé des instrumentistes, des musiciennes, des professeurs de musique approchés au plus près et au plus intime, les unis répétés les plus difficiles, les plus hermétiques, les plus mystérieux. Le pianiste canadien Glenn Gould, que vous entendez ici dans ses mythiques variations Goldberg, la violoniste prodige et superstar Yehudi Menuhin, ou encore le très humble et très mystérieux Vyatoslav Richter, Bruno Mont-Saint-Jean a écrit une œuvre de plus de 100 opus, 100 films qu'il évoque dans un livre génial intitulé « Sobrement, filmer la musique », paru alors qu'il fête ses 80 ans et qui ne cesse d'explorer cette question: comment mettre la musique en image? Pas d'image dans la série musicale aujourd'hui, c'est toute l'ironie, mais un portrait de ce réalisateur en maestro, tout de suite sur France Culture.
Il y a quelque chose que j'ai rarement réussi à comprendre, sont les catégories. Je pense que il y a bien entendu le besoin de travailler une spécialité longtemps pour arriver à la maîtriser. Mais une fois que cela est fait, les voies qui sont ouvertes sont innombrables. Et je pense qu'à l'intérieur d'une spécialité comme la musique, il y a un moyen d'aboutir à une expression qui ne soit pas uniquement spécialisé sur un instrument, sur une période de la musique. Mais je pense que le film, l'utilisation des médias dans ce qu'elles offrent de plus profond, est quelque chose d'extraordinaire.
Les variations Goldberg de Glenn Gould et la voix de Bruno Monsaingeau, interviewé déjà en 84 par Jacques Soncel dans l'émission Quotidien Pluriel, qui dénonce finalement l'idée des catégories, lui à qui on a cessé de dire « Mais pourquoi n'êtes-vous pas vous-même musicien ?» et qui n'a cessé de répondre d'une certaine manière qu'en filmant la musique, en filmant ses idoles, il avait fait œuvre lui aussi. À quoi bon voir les mains d'un pianiste, se demandait Sviatoslav Richter. C'est l'un des hommes que Bruno Monsaingeau a réussi à approcher, à filmer au plus près, dans un portrait absolument génial, juste avant qu'il ne s'éteigne. Qu'est-ce qu'apporte vraiment le visage d'un interprète ? Montrer un artiste au travail, pour moi, ne présente aucun intérêt, disait le pianiste russe. Je pense exactement l'inverse, dit Bruno Monsaingeau dans le livre qu'il fait paraître en cette fin 2023, début 2024. Voir un artiste de l'envergure de Richter, découvrir le type d'engagement physique, spirituel qui était le sien, contribue pour moi puissamment à la perception qu'en a l'auditeur, le spectateur, à condition bien sûr que les images que l'on propose aient un sens. Alors quel est ce sens ? Bruno Monsaingeau, on pourrait se dire qu'en réalité, il s'est posé cette question tout jeune. Cet homme était donc un violoniste, s'il s'est lancé cette vocation, elle serait née justement de l'écoute d'un homme qu'il va accompagner tout au long de sa vie. La trajectoire de Bruno Monsaingeau pourrait en faire rêver plus d'un. C'est à se demander si on ne devrait pas tous contacter les gens qui nous ont fait rêver enfants pour les accompagner, pour traduire leurs intentions. Bruno Monsaingeau qui se forme à la musique, en découvrant Yehudi Menuhin, le petit génie violoniste que l'Amérique et bientôt le monde entier va aduler. C'est Menuhin qui ensuite le formera lors d'une masterclass quand il est tout jeune, qu'il a 16 ans. C'est Menuhin aussi qui finalement l'accompagnera dans sa transformation, une transformation qui va d'un simple violoniste qui ensuite a pris un boulot normal, puisque Bruno Monsaingeau va apprendre le russe pour parler la langue de son autre idole d'enfance, David Oistrakh, et qu'il va apprendre un boulot tout ce qu'il y a de plus normal. Il sera nommé au ministère des Affaires étrangères à l'ambassade en Albanie avant 22 ans de tout quitter et de décider de devenir un réalisateur, lui qui n'a suivi aucune étude de cinéma, qui finalement connaît pas grand chose à l'image et qui va aborder l'image par le prisme de la musique, tout cela grâce donc à une petite danse hongroise en si mineur qu'il avait entendue lorsqu'il avait 4 ans.
Relativement tard, je l'avais dans la peau et c'est lié à ma connaissance, à la prise de connaissance que j'ai eue de Menuhin quand j'avais 4 ans. Et je me souviens très bien d'avoir eu le sentiment qu'un enfant, parce que j'étais un enfant moi-même, mais lui, je le considérais quasiment comme un enfant, m'avait tendu sa main et j'avais entendu une danse hongroise de Brahms qui avait mis le feu aux poudres. Et c'est ça qui a décidé du fait que je voulais faire du violon. J'ai réclamé à mes parents un violon alors que je jouais du piano avec. Il m'a fallu pas mal d'années pour obtenir cet instrument de mes rêves et de enfin pouvoir m'exprimer musicalement tel que je le souhaitais.
Mmh.
La générosité de Yehudi Menuhin qui, dans cette danse hongroise enregistrée avec, dans une version violon-piano avec Marcel Gazel lorsqu'il était ce jeune adolescent virtuose, va donner envie au jeune Bruno Mont-Saint-Jean de faire du violon. Plus tard, lorsqu'il a 17 ans et qu'il est à Londres, il découvre que Yehudi Menuhin donne une masterclass à Darlington. Il s'inscrit et l'année suivante, il est pris. C'est là qu'il découvre comment Yehudi Menuhin dirige. J'ai pu le voir réagir face à des musiciens à des sensibilités très différentes, recevoir ses conseils. Un horizon entier s'est ouvert sur la manière, non pas d'enregistrer, mais de susciter la musique chez ses étudiants. C'est cette générosité toujours racontée dans ce livre, Filmer la musique, qui peut étonner. Alors qu'il est donc ce jeune étudiant inconnu, à la fin de la première journée, Bruno Mont-Saint-Jean demande à Yehudi Menuhin s'il n'aurait pas sa partition des sonates et partitas de Bach avec lui. Yehudi me répond, avec son sourire doux, qu'il ne transporte évidemment pas partout sa bibliothèque musicale. Je lui ai dit combien j'aurais aimé examiner ses choix, quelle méthode de pensée, quel développement de l'interprétation, quel doigté, quel coup d'archet il utilisait dans cette œuvre. Et le lendemain, il était arrivé avec la partition qu'il avait entre-temps achetée à la librairie musicale. Il avait passé une partie de la nuit à annoter la première sonate juste pour me l'offrir. L'immense générosité d'un Yehudi Menuhin qu'on avait souvent qualifié de Rimbaud du violon, cette espèce de génie que l'Amérique s'arrache entre les années 30 et les années 50. Il va faire un nombre d'apparitions phénoménales dans toute une série de films destinés à encourager les soldats américains. Bruno Mont-Saint-Jean en joue dans les films qu'il a lui-même consacrés à Yehudi Menuhin. Écoutez-le ici, à peine âgé de 25 ans, le grand Menuhin, jouer The Flight of the Bumblebee, une pièce totalement populaire pour des jeunes soldats dans le film Le Cabaret des Étoiles en 43.
Quiet, everybody, please. There comes a time in everyone's life when a moment of seriousness is appreciated. We offer you that moment tonight. It is my pleasure and privilege to introduce one of the world's great concert violinists, Mr. Menuhin.
For the first insect that's ever been in the stage door canteen, The Flight of the Bumblebee.
De Yehudi Menuhin, qu'ensuite devient une immense star à la fois des scènes internationales, mais aussi en tant qu'humaniste. Le personnage va être extrêmement fêté dans l'Europe entière et aux États-Unis. C'est grâce à Yehudi Menuhin, ce lien qui se développe entre les deux hommes, que Bruno Mont-Saint-Jean, qui travaille alors pour l'ORTF, l'ancêtre évidemment de la télévision publique, réussit à tourner son tout premier film. C'est évidemment une longue relation de confiance qui va permettre à Bruno Mont-Saint-Jean d'explorer toute une série de possibilités en termes d'images. Yehudi Menuhin va se prêter à bien des exercices de mise en scène pour donner à voir la manière dont il pratique le violon. Une longue série de films vont naître de cette collaboration entre les deux hommes. La mort de Menuhin va être sans doute l'un des plus grands drames de Bruno Mont-Saint-Jean, qui souhaiterait mourir comme lui un 27 janvier. Néanmoins, cette grande intimité nous offre des images incroyables avant temps de rentrer dans le vif du sujet, de la manière dont on peut, par exemple, tenter de filmer un orchestre et ce qui se joue entre les musiciens, on avait envie de vous donner à entendre une interview d'Yehudi Menuhin, pratiquée dans un des derniers films que lui consacre Bruno Mont-Saint-Jean. Menuhin at Heart, jeu de mots sur le fait qu'il était en résidence dans le lieu de Heart. Vous allez entendre Menuhin raconter comment il abordait justement le doigté, le toucher de son violon, comment il crée son vibrato, un vibrato totalement dédié à la question du mouvement, et on entend la manière dont Menuhin construit son geste musical de manière complètement inédite. Il faut s'imaginer que cette interview, on la voit face non pas à un Menuhin qui joue, mais à un Menuhin qui fait du yoga en plein air. Mon vibrato, avant que je ne le développe plus tard, n'avait pas du tout assez d'amplitude. Je n'étais pas satisfait, j'ai donc élaboré une théorie selon laquelle le changement de position, l'action des doigts et le vibrato ont tous en fait la même origine. C'est absolument pas mécanique, il faut être absolument libre ici au poignet.
Up down, up down, up down, up down. But up down, up down doesn't take into account the.
Quand on ne fait que monter et descendre, on ne prend jamais en compte, finalement, que c'est le mouvement pur qui compte. Yehudi Menuhin, qui est l'un des personnages principaux de cette filmographie de Bruno Mont-Saint-Jean, premier film réalisé ensemble, un film sur les quatre saisons avec le Menuhin School Orchestra en 79 et des trouvailles en termes d'images absolument audacieuses. Écoutez. Finale de l'hiver des quatre saisons de Vivaldi, enregistrée par Bruno Mont-Saint-Jean avec Yehudi Menuhin et son orchestre. Premier exemple d'un film qui est vraiment pensé par les deux hommes en même temps. On s'est d'abord retrouvé partition en main, par quel bout la prendre. Ce morceau-là, ces quatre saisons n'avaient jamais été enregistrées par Menuhin, du moins à l'écran. Il a eu la patience, l'ouverture d'esprit d'y consacrer du temps. On a élaboré toute une interprétation, en quelque sorte commune, qui alliait véritablement les choix musicaux et la dimension visuelle. Dans ce passage que vous connaissez tous, je lui avais demandé de jouer un passage avec un seul doigt pour qu'on puisse vraiment donner à voir le glissando. C'est une fiction, car il ne joue pas qu'avec un seul doigt. Mais le spectateur, même le moins aguerri, fait alors la relation entre ce qu'il entend, des notes qui montent, et ce qu'il voit, une main qui glisse sur la touche vers le haut du manche, et qui évoque un patin à glace qui file absolument partout. Cette collaboration, cette amitié très longue de Bruno Mont-Saint-Jean avec Yehudi Menuhin va l'amener à la deuxième grande collaboration qui va profondément marquer sa vie. Et la nôtre, car on le sait peu, mais c'est grâce au film qu'il va consacrer à un certain pianiste canadien qu'il a découvert au hasard d'un enregistrement à Moscou que nous allons découvrir. Ce pianiste absolument inconnu alors en France, il s'appelle Glenn Gould. Il est déjà, même jeune, il a déjà renoncé à se produire en public. Il ne donne plus de concerts. Il vit entre un appartement et un hôtel, reclus chez lui au Canada, ne prend plus l'avion, a toute une série de rituels, de troubles obsessionnels, peut-on dire, et une connaissance absolument inouïe, une façon de vivre la musique qui va bouleverser à tout jamais la vie de Bruno Mont-Saint-Jean et celle sans doute de nos oreilles.
L'attitude qui a été la mienne depuis une dizaine d'années et qui a consisté à faire des films sur la musique m'a permis de rencontrer des gens dont la philosophie était proche de la mienne. Et je pense qu'en particulier, c'est la rencontre avec Glenn Gould, qui a donné un sens à mon existence depuis 10 ans, provient certainement du fait de préoccupations qui ont été similaires et que l'instrument ou la pratique de la musique instrumentale ne pouvait pas satisfaire. Je pense qu'il y a un niveau plus profond de communication qui provient d'une communication qui est contrôlée, maîtrisée, dont chaque élément a été préalablement pensé et qu'on peut fournir à l'auditeur de manière beaucoup plus fraternelle du fait de la perfection et de la volonté de perfection qu'on y a mis.
Let's try it again.
L'univers du studio d'enregistrement est un milieu très cloîtré.
Il constitue littéralement un milieu dans lequel le temps tourne sur lui-même, dans lequel, comme dans un cloître, on devient capable de s'abstraire de la poursuite effrénée d'une succession d'événements quotidiens, momentanés, éphémères.
Là, on est l'extrait d'un des premiers films que consacre Bruno Mont-Saint-Jean à Glenn Gould, ce pianiste canadien complètement fou. Alors, dans la scène que vous entendez ici, Bruno Mont-Saint-Jean donne à entendre, essaye de montrer en réalité ce qui se passe quand on enregistre en studio. Pour cela, il demande beaucoup à Glenn Gould, qui, dit-il, est un excellent acteur. Il lui demande plusieurs fois de faire une fausse note pour montrer comment est-ce qu'on réenregistre en studio. Alors, déjà, c'est presque une scène non réaliste puisque Glenn Gould ne fait pas de fausse note. C'est l'un des récits qu'on découvre dans ce livre. Mais Glenn Gould accepte et de rejouer cette scène qui doit en fait en réalité avoir la même fausse note au même moment. 25 fois, cette scène sera retournée et Glenn Gould, qui répétait difficile, accepte de la rejouer plus de 25 fois. Comment entrer en contact avec cette espèce de génie canadien qu'à l'époque peu de Français connaissent quand Bruno Mont-Saint-Jean décide de vendre à l'ORTF un documentaire sur lui. Glenn Gould, qui est cette espèce d'homme reclus, qui vit pour, par la musique, qui est, dit Bruno Mont-Saint-Jean, un grand intellectuel de la musique et qui, avant d'accepter de collaborer avec lui, va lui faire passer toute une série de tests alors que Bruno Mont-Saint-Jean écrit à tout hasard à la radio canadienne pour tenter d'entrer en contact avec l'interprète. Il découvre que Glenn Gould accepte de le rencontrer, qu'il lui a réservé une chambre sur l'équivalent de la 5e avenue et que dans un premier temps, il va lui faire passer toute une série de tests. D'abord, toucher ses doigts, l'extrémité d'un doigt, et le retirer aussitôt, une manière de montrer qu'il veut bien entrer en contact avec lui. Et en réalité, bien après, il va lui demander de refaire une mélodie, de chanter une mélodie pour vérifier qu'il a bien l'oreille absolue. Ok, you pass the test. Puis il lui fait écouter un de ses opéras préférés, Hansel and Gretel de Humperdinck, une œuvre du 19e siècle qui a été mise en musique par Richard Strauss. 6 mois plus tard, lorsqu'il le retrouve à nouveau au Canada, il va jouer cette œuvre dans sa chambre d'hôtel et lui demander s'il l'a reconnue. Comme Mont-Saint-Jean n'a pas vraiment reconnu l'œuvre 6 mois plus tard et qu'il l'a pas assez assimilée, eh bien, Glenn Gould lui dit d'un air gourmand « Vous n'avez pas fait vos devoirs ». Mais néanmoins, il accepte de collaborer. Et cette longue collaboration va devenir extrêmement riche puisque Bruno Mont-Saint-Jean va non seulement devenir l'homme qui met en scène Glenn Gould, son rapport à la musique dans des dialogues extrêmement longs au cinéma, il va aussi devenir celui qui compile et traduit ses textes, car Glenn Gould était un intellectuel de la musique. D'ailleurs, Bruno Mont-Saint-Jean s'est longuement entretenu, a dû défendre cette vision gouldienne qui est si spécifique, notamment de la musique de Bach, son chant, car Glenn Gould chante évidemment quand il joue, et cette gestique qui parfois gêne certains des amateurs de Bach, comme il le faisait ici dans Quotidien Pluriel, toujours au micro de Jacques Sancel.
Il pensait que la gestique, qui est très particulière également, ne concernait absolument personne. Je veux dire que le public n'avait pas de raison d'être dérangé par la manière dont il dirigeait la musique, de la manière dont il la dessinait dans l'air. Oui. Par contre, il savait qu'il chantait en même temps qu'il jouait, et il savait que ça pouvait déranger des gens. Il comprenait tout à fait le
Il ne pouvait pas s'en empêcher.
Il ne pouvait pas s'en empêcher parce que il s'agissait. Vous savez, c'était un pianiste qui ne. Je l'ai dit souvent, mais c'est quelque chose qui semble surprenant, mais qui ne jouait pas piano. qui n'en jouait effectivement pas. Lorsqu'il venait dans un studio pour un enregistrement ou pour un tournage, et même lorsqu'il donnait des concerts, il n'avait préalablement pas joué l'œuvre et les œuvres les plus complexes qui ont été celles qu'il a abordées. C'est quelqu'un qui donc ne jouait pas de piano, pas par provocation. Glenn voulait écarter le principe de plaisir, de toute façon, de l'existence. Et il pensait que le fait même de toucher l'instrument avait un effet détériorant sur la manière dont on en jouait. C'est-à-dire que la tangibilité du son, le fait que le son devienne concret, était en soi un élément qui détruisait l'idéalisme qu'on pouvait avoir face à une partition. En fait, on s'aperçoit qu'il chante des parties intérieures de la musique. Jamais la partie extérieure qui est la plus facilement perceptible pour l'auditeur, mais il navigue à travers les différentes couches polyphonique de la musique, et il s'intéresse à faire ressortir l'une ou l'autre, et il donne dans son chant un espèce de phrasé idéal, et il ne peut pas s'empêcher de faire ça.
Glenn Gould qu'on entend chanter ici dans ces films, toute une série de films qui vont unir Bruno Mont-Saint-Jean et Glenn Gould qui disparaît de manière prématurée à même pas 50 ans dans le dernier triptyque de films que Bruno Mont-Saint-Jean lui consacre, qui devait être initialement une série de 5 films interrompu par la mort de Gould. Bruno Mont-Saint-Jean met en scène un dialogue véritablement avec Glenn Gould. C'est un peu ce cinéma, c'est un peu ce dialogue qu'on rêverait tous d'avoir avec les musiciens que l'on admire, et évidemment Glenn Gould de défendre sa pratique, son image et évidemment son engagement avec Bach qu'il aura intégralement, notamment dans les variations Goldberg, enregistré à ses débuts en 55, puis à nouveau juste avant de mourir dans l'une de ces très belles discussions. Par exemple, on va entendre Glenn Gould souvent accusé d'avoir interprété Bach au piano et de ne pas choisir systématiquement le clavecin, défendre la raison pour laquelle, selon lui, le piano se prête plus à la vision de Bach qui est véritablement au centre de ce film, de ces films qui s'apparentent à une conversation entrecoupée de démonstrations par un Glenn Gould extrêmement excité, extrêmement vif, extrêmement rapide, mu évidemment par ce lien qui l'unit à Bruno Mont-Saint-Géo et nous permet de nous parler. Écoutez-le ici répondre à la question de Bruno, qui lui demande pourquoi est-ce que, selon lui, le piano est peut-être plus adapté à la musique de Bach.
Surely, Glenn, you're not going to argue that the piano is more suited to that music than the harpsichord or the clavichord.
No, no, of course not. I'm utterly.
Évidemment, je ne dis pas que le piano est plus apte à rendre Bach que le clavecin. Mais je serais prêt à défendre que dans certaines situations, dans certains répertoires, le piano est beaucoup plus proche des notions conceptuelles que défend Bach, que ne sera jamais le clavecin, par exemple. Si vous considérez par exemple les sonates avec violoncelle ou les trios, ce que fait le clavecin, en tout cas ce que le clavier fait, représente les deux tiers de ce qui est écrit musicalement. Et c'est complètement irréaliste de penser que le clavecin peut contrebalancer le violon. Vous les avez entendus, Bruno Mont-Saint-Jean et Glenn Gould, qui tous les deux se font ce grand plaisir de tenter justement de comprendre ce que fait le piano dans l'équilibre d'une sonate. Et pendant que Glenn Gould joue la partie du clavier, c'est bien Bruno Mont-Saint-Jean, le violoniste, qui interprète à la voix ce que fait en parallèle le violon, le violoncelle. On comprend bien dans ces films qui ont été extrêmement importants pour les deux hommes ce qui se joue, comment en réalité l'écriture de Gould est bien une forme d'écriture au piano, une espèce de complément, une espèce d'apport à la musique de Bach. Bruno Mont-Saint-Jean qui va conserver toute sa vie une relation extrêmement forte. Évidemment, le tournage des variations Goldberg, qui était le dernier épisode de la série, n'a pas vraiment pu avoir lieu. Pour Bruno Mont-Saint-Jean, c'est évidemment un grand moment quand Glenn Gould meurt. Néanmoins, il va continuer son exploration de la question du piano et du rapport qu'entretiennent les très très grands pianistes avec cet instrument, avec aussi la discipline de la musique et avec les compositeurs. Et c'est très vite qu'il se tourne vers celui qu'on considère encore aujourd'hui comme sans doute le plus important pianiste du XXe siècle, Wladyslaw Richter. Richter auquel il finit par consacrer un très très grand film qu'il approche difficilement et dont il parle Ici, dans l'émission Opus sur France Culture, Richter qui accepte de travailler avec lui avant d'être filmé, bien que vous l'avez entendu en début, il est finalement assez opposé à cette idée de filmer la musique. Lui qui refuse presque d'être enregistré, Bruno Mont-Saint-Jean le trouvait beau.
Je l'ai entendu la première fois en 1966 à Paris, au mois de février. Je me souviens très très bien parce qu'il était arrivé sur scène. J'étais sur scène moi-même. Les salles étaient tellement combles qu'on rajoutait des sièges sur la scène de la salle PL. Je me trouvais sur le siège qui était à côté de lui. Et je me souviens très bien de cette impression fulminante de voir ce personnage arriver presque en courant au piano. Et il avait attaqué l'instrument alors qu'il était encore debout. Et quand je parle d'attaque, c'était vraiment une attaque sur l'instrument. Il avait attaqué l'instrument, et l'instrument, sous le choc, avait reculé. L'instrument, l'énorme piano, avait bougé sur le choc. Il s'était projeté vers l'avant de plusieurs centimètres. Et il avait joué de manière prodigieuse cette sonate, et visiblement, il n'avait pas été très content parce qu'il avait... D'abord, il avait cassé une corde dès le départ, et... Il l'a redonné en bis. Thank you.
Concerto pour piano de Rachmaninoff, l'une des œuvres, l'un des compositeurs que Svetislav Richter va décider de jouer jusqu'à la moelle, car Richter, ce très très grand génie du piano, formé presque en autodidacte, qui démarre un apprentissage sérieux à la vingtaine, alors que les plus grands concertistes sont déjà dans les salles de concert, ne va cesser d'étonner le monde entier par son génie, un génie qui fait qu'il aura toujours la première place, un génie aussi sans doute lié, nourri par un immense complexe d'infériorité, une très grande humilité. Svetislav Richter qui est extrêmement rétif à l'idée d'être enregistré. Est-ce que le musicien est un acteur qui joue son propre rôle dans mes films, s'interroge Bruno Mont-Saint-Jean. Est-ce qu'il doit rester lui-même? Est-ce que je dois le mettre en scène? Certains musiciens supportent très mal de devenir l'objet d'une interprétation, car le tournage, c'est d'abord le regard d'un autre sur soi, un autre qui est forcément en partie un étranger. On peut effectivement s'étonner, se réjouir en réalité du fait qu'un homme comme Glenn Gould, qui était sans doute dans le spectre autistique, ait accepté justement ce regard d'un autre sur lui, qu'il ait même été nourri, qu'il se soit montré d'une telle générosité avec grâce à ce regard d'un autre qui était Bruno Mont-Saint-Jean. Pour Svetislav Richter, l'idée même de faire un film a mis énormément de temps à faire son lit. S'il avait accepté l'idée, il ne fallait absolument pas que Richter voie qu'un principe même de tournage était en lien. La caméra ne devait jamais entrer dans son champ de vision, raconte Bruno Mont-Saint-Jean, ni aucun autre signe extérieur, lumière, micro compris. C'était très difficile pour moi de recruter des opérateurs qui répondent à cette indispensable discrétion aux antipodes d'un tournage classique et qui s'intègrent à notre petit groupe. Déjà, lors de nos premières conversations, nos premières séances, 2 ans avant le tournage du film à proprement parler, j'étais seule à entretenir la conversation avec Richter, tout en manipulant un enregistreur. Il avait une telle horreur de l'idée même qu'on l'enregistre que j'avais été obligée de disposer un bouquet de roses pour dissimuler le micro. Il suffisait à Richter de ne pas le voir pour être satisfait. Ce film, Richter l'insoumis en français, ou Richter the Enigma en anglais, est aujourd'hui un document absolument inouï, extrêmement précieux pour tous les amateurs de piano, pour tous les pianistes, pour presque, pourrait-on dire, tous les êtres humains. On y découvre l'immense talent, le grand récit de conteur, la grande dépression aussi de Richter. Et Bruno Mont-Saint-Jean évoquait justement ces entretiens préparatoires extrêmement longs, faits en russe évidemment, pour gagner l'instrumentiste à sa cause, et son immense frustration de cinématographe au moment de ces entretiens, toujours dans l'émission Opus sur France Culture.
Richter était beau. Il avait une beauté d'un type expressif, je veux dire les yeux, tous les mouvements du visage, y compris ces moments d'extraordinaire dépression dans lesquels la mâchoire projetée vers l'avant. Il y avait quelque chose d'extraordinairement fort dans son expression. Et lorsque nous avons commencé donc à travailler ensemble sérieusement, il y a d'abord eu 3 mois pendant lesquels je l'ai vu quotidiennement, et avec simplement un micro, et je me lamentais de manière constante de ne pas avoir de caméra, parce que pour l'histoire de la scène de Liszt, vous savez, il y a des choses qui dans un film fonctionnent avec l'image, y compris sans mots. Et lorsqu'il me racontait que avant de jouer la scène de Liszt, il entrait en scène, faisait le silence à l'intérieur de lui-même et comptait. Et je le vois encore me disant 1, 2, 3, 3, 1, 2, 3, et il comptait jusqu'à 30. Et après, à la fin, il ne même plus les chiffres ou les nombres. On voyait qu'un mouvement de ses lèvres.
J'avais trouvé ce concert pas mal. Mais quand j'ai entendu le résultat, bon... Je trouve les choses décevantes en général. Je parle pas que de la musique, de la vie. Tout est superflu. Je ne m'aime pas moi-même. Voilà. Les dernières images, les derniers mots extrêmement sombres de Richter, le film mythique consacré à cet incroyable instrumentiste par Bruno Mont-Saint-Jean. Bruno Mont-Saint-Jean qui aura réalisé plus de 100 films dans sa carrière, qui continue à en réaliser. Il y a évidemment aussi des femmes, peu nombreuses, dans cette filmographie. Il est l'un des premiers a réalisé un film de très belle qualité sur l'enseignement de la grande Nadia Boulanger. Je vous en ai souvent parlé ici, immense pédagogue qui aura formé quasiment tous les grands musiciens de la scène américaine. Il tourne encore, Bruno Mont-Saint-Jean. On peut découvrir un film qu'il a consacré au Quatuor à Rhodes, quatre jeunes hommes qui pratiquent de la musique de chambre, notamment des enregistrements de Ravel extrêmement doux au fur et à mesure du temps, de l'affinage d'une certaine manière de ces techniques cinématographiques, de l'évolution de la technique. Bruno Mont-Saint-Jean aura fait des films qui prennent des formes et qui cinématographiquement ne cessent d'innover. Le propos reste toujours le même, de la manière qu'on voyait Yehudi Menuhin évoquer sa pratique et sa technique d'archer pour trouver son vibrato en faisant des cours de yoga, en pratiquant le chien tête en bas. On peut découvrir le Quatuor à Rhodes se détendre, évoquer cette difficile concertation, cette difficile entente entre quatre musiciens. Il a aussi consacré un documentaire sorti en novembre dernier, dédié au magnifique et génial nouveau directeur musical de l'orchestre de Paris. Mais Bruno Mont-Saint-Jean, s'il reste un cinéaste, est redevenu, par la grâce justement de son immense travail cinématographique, un instrumentiste. Collaboration inouïe, grand compagnonnage avec Glenn Gould, il aura été non seulement son éditeur, son traducteur, mais aussi son interprète, car on le sait peu en France. Glenn Gould a aussi composé, même s'il s'est beaucoup limité, un quatuor à cordes, notamment Opus 1, dans lequel on retrouve au violon un certain Bruno Mont-Saint-Jean. Thank you. Le quatuor à cordes de Glenn Gould, interprété entre autres par Bruno Mont-Saint-Jean qui avait à cœur de créer quelque chose qui ait valeur patrimoniale, une chance de lui survivre et de se vivre à ces prodigieux musiciens qu'il a tant aimés. Bruno Mont-Saint-Jean qui a construit une bibliothèque d'archives, une œuvre tant cinématographique que musicale, qu'on vous invite à redécouvrir sur vos écrans un peu partout, mais aussi dans ce livre « Film et la musique », livre d'entretien avec son cousin Guillaume Mont-Saint-Jean. Merci beaucoup à Lou Quevauvy, l'attaché de production de cette émission, ainsi qu'à Colin Gruel qui l'a réalisé ce dimanche. À la technique, c'était Ludovic Auger. À la semaine prochaine.